Radio Kapi.
Noëlla Luzitu Kabambi à la présentation. Discours sur l'état de la nation. Le chef de l'État congolais l'a tenu ce mercredi 11 décembre devant les députés et sénateurs réunis en congrès au Palais du Peuple ici à Kinshasa. Le social, l'économie, la politique, en passant par la sécurité, Félix Tshisekedi a fait pendant près de 2 heures l'évaluation de la vie en général dans le territoire congolais. Malgré les défis qui restent à relever, le chef de l'État congolais s'est félicité des progrès réalisés durant la première année de son deuxième mandat. Des hauts responsables de l'armée doivent faire l'objet d'enquêtes pour des possibles crimes contre l'humanité commis dans le cadre du massacre de Goma. C'est l'avis de Amnesty International dans son dernier rapport intitulé « Opération Keba », allusion faite à la répression le 30 août 2023 à Goma de l'une des manifestations appelant au départ de la MONUSCO. Le professeur David Lubo est l'invité de ce journal. Il est le président de l'APUKIN, Association des professeurs de l'Université de Kinshasa. Cette association dit ne pas être en grève alors que la RAPUICO, Rassemblement des professeurs des universités et instituts supérieurs du Congo, vient de déclencher une grève pour non-respect du protocole d'accord de Bibwa. Bonjour à tous. Félix-Antoine Tshisekedi réaffirme sa détermination et sa volonté de continuer à servir le peuple congolais en assumant ses fonctions de commandant suprême des forces armées et de garant de la nation. Dans son discours sur l'état de la nation prononcé devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès, le chef de l'État a passé en revue toute la situation qui prévaut à RDC, allant de l'économie à la politique en passant par le social, la santé, le sport et la sécurité. Le président de la République s'est félicité des progrès réalisés durant la première année de son deuxième mandat, tout en reconnaissant des défis qui restent à relever dans l'amélioration des conditions de vie de la population. Michel Kifindangoy.
Dans son discours magistral et martial de plus d'une heure et trente minutes, le chef de l'État a présenté toutes les réalisations avec chiffres à l'appui depuis son investiture en janvier dernier. Sur le plan économique, le président de la République s'est félicité du taux de croissance qui dépasse la moyenne africaine, mais il s'est dit conscient du défi de la perte du pouvoir d'achat des Congolais. La réduction du prix du carburant à la pompe, l'allocation des moyens conséquents pour des secteurs producteurs de richesses et la création des emplois pour les jeunes sont parmi les mesures efficaces pour faire face à ce défi. Félix-Antoine Tshisekedi dit faire de l'agriculture le fer de lance de l'économie nationale. Pour lui, le budget 2025, qui sera bientôt adopté au Parlement et promulgué par lui, accorde des moyens conséquents pour les secteurs sociaux de base, comme la santé et l'éducation. Il invite à cet effet le peuple congolais, en particulier la jeunesse, à prendre son destin en main pour s'engager dans les efforts de développement de la RDC. Le garant de la nation annonce une politique de tolérance zéro pour les criminels et toute pratique qui freine le développement du pays. Félix-Antoine Tshisekedi s'est aussi exprimé sur la situation sécuritaire et les réformes constitutionnelles en vue.
S'agissant de la situation sécuritaire justement, le président Félix Tshisekedi s'est dit déterminé à mettre fin à la crise sécuritaire dans l'est du pays et à manifester sa solidarité aux victimes, estimant que les efforts pour leur porter assistance et protection ne faibliront pas. Félix Tshisekedi.
Honorables députés nationaux et sénateurs, distingués invités, mesdames et messieurs, mes très chers compatriotes, malgré les progrès réalisés dans plusieurs domaines, la question sécuritaire demeure un défi majeur. Notre pays reste confronté à des rébellions persistantes, dont l'agression de l'armée rwandaise et des terroristes du M23 qui entravent la stabilité nationale, le développement et l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Ces ennemis de la République continuent d'occuper une partie des territoires de Rutshuru, Masisi, Nyiragongo et Lubero, provoquant un afflux massif de déplacés internes. Aujourd'hui, près de 7 millions de Congolais vivent loin de leur foyer, faisant de notre pays l'un des pays les plus touchés au monde par ce drame humanitaire. Je tiens à réaffirmer que nos efforts pour leur porter assistance et protection ne faibliront pas. Grâce à la détermination de nos forces armées, et au soutien de la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, nous avons repoussé les agresseurs et leurs supplétifs qui comptaient sur une victoire facile et immédiate.
Au nord Kivu, les coups de feu se font toujours entendre au sud du territoire de Lubero. Pour le 10e jour consécutif, les FARDC affrontent les combattants du 1-23 soutenus par le Rwanda dans des combats acharnés. Depuis ce matin, le village de Kassé, à 60 km de Lubero centre, est le théâtre de violents affrontements. L'armée annonce avoir renforcé ses positions depuis Beni. Martial Papimukeba nous rapporte les derniers développements.
Les affrontements se poursuivent avec une intensité accrue à Kasehe, considéré comme un verrou stratégique pour les rebelles du M23, avant d'atteindre la commune rurale de Kirumba, 25 km plus loin, toujours sous leur occupation. D'après des sources sécuritaires, l'armée a repris le village de Matembe, précédemment divisé entre les FARDC et les M23. Elle a également délogé les rebelles des villages de Katwa, Kimaka et Luofu. Les Rigen Mbouyi, porte-parole du front nord des FARDC, annonce que l'armée a activé son système de défense dès le deuxième jour des attaques rebelles du 1er décembre 2024.
C'est après 24 heures des attaques lancées que toutes les mesures de défense ont été activées par les FARDC pour riposter farouchement. Le commandement des opérations front nord rappelle toujours que les forces armées de la République démocratique du Congo n'ont pas besoin des FDLR pour défendre leur pays.
La situation reste extrêmement tendue dans les sites de Lubero où les combats à l'armée lourde opposent les FARDC et les M23 depuis 10 jours consécutifs, exacerbant une situation humanitaire déjà critique dans la région. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Toujours au nord Kivu, en séjour à Goma, l'ambassadeur de la Grande-Bretagne en RDC déclare encourager le processus de paix en cours à Luanda pour la stabilité dans la partie est du pays. Madame Alison King l'a dit aux médias au sortir hier d'un entretien avec le gouverneur militaire intérimaire Peter Chirimwami. Espérant que ce processus trouvera la solution à la crise, elle promet l'accompagnement de son pays aux parties prenantes. Les propos de Alison King sont recueillis par la presse du gouvernorat du nord Kivu.
Nous sommes ici pour voir la réalité des choses dans le nord Kivu, de voir la situation des personnes déplacées, la violence, la situation humanitaire, pour voir comment est-ce que la Grande-Bretagne puisse aider les citoyens congolais et aussi comment est-ce que nous puissions soutenir davantage le processus de paix. Mais la paix se fait entre les parties prenantes. Le processus de Luanda est le seul processus actuel. Donc il y aura un sommet le 15 décembre, j'espère, entre les chefs de l'État. On espère que ça va trouver des solutions. Et nous sommes là pour accompagner la paix et également pour accompagner les civils qui ont été touchés par la guerre. Nous venons d'allouer plus d'assistance pour les personnes déplacées à travers le PAM, mais nous sommes également impliqués dans la lutte contre les maladies contagieuses, dans le Mpox, avec aussi les partenaires. Mais aussi, ce que nous cherchons de plus en plus, c'est de travailler de façon durable, de développer davantage l'infrastructure d'eau potable et d'assainissement dans la ville de Goma et autour.
Ce mercredi, l'ambassadeur britannique lance, en collaboration avec le gouverneur militaire, le projet de lutte contre la Mpox dans certaines structures de santé de la ville de Goma. Dans l'ouest du pays, la situation sécuritaire reste préoccupante ces derniers jours dans la région de Grand Bandundu à la suite des exactions de la milice Mobondo. Dans la nuit de lundi à hier mardi, ces milices ont fait incursion dans une ferme située non loin des villages Massiakwa et Aviation dans le territoire de Kwamuto Maindombe et ont calciné une dizaine de personnes. Dans la même nuit, ces assaillants ont attaqué le village Ipuka dans le territoire de Popokabaka au Kwango. Après de violents affrontements avec l'armée, au moins 8 de ces insurgés ont été tués par les éléments des FARDC. L'armée loyaliste dit avoir intensifié les opérations dans ces coins pour mettre fin à cette insécurité. Le porte-parole de l'opération Ngemba de la 11e région militaire de Grand Bandundu, le capitaine Anthony Mwalushai, le dit au micro de Irène Mbomaluzolo.
Dans les territoires de Popokabaka, les insurgés Mobondo occupent le village Ipuka. Dans la nuit du lundi à mardi 10 décembre 2024, l'armée loyaliste a mené les opérations au village Ipuka et a neutralisé 8 Mobondo et capturé 2, parmi eux un blessé, récupéré également 5 armes. Du côté de l'armée républicaine, un soldat a été blessé. L'ennemi qui est en fuite en ce moment a trouvé refuge au village Ipungi et nos éléments sont en train de le poursuivre pour les neutraliser totalement. Sur l'axe Komunt-Bakata, un groupe des insurgés Mobondo a attaqué dans la nuit du lundi à mardi une ferme non loin du village Massiakwa où ils ont attaqué la population civile et calciné ainsi 12 compatriotes. Parmi eux, 4 enfants, 4 femmes et 4 jeunes hommes. 6 compatriotes ont réussi à s'échapper et se sont retirés avec des graves brûlures.
Poursuite des audiences foraines en procédure de flagrance contre des gangs présumés appelés Kuluna. Après les tribunaux militaires de garnison de Kinshasa Ngaliema et de Ndjili hier mardi, c'était le tour du tribunal militaire de garnison de Kinshasa Gombe. Il a entamé l'instruction de plusieurs gangs dont des militaires et policiers suspectés de semer la terreur dans les quartiers de la ville de Kinshasa. Sous la supervision des ministères de la Défense nationale, de l'Intérieur et de la Justice, ils ont été identifiés et aujourd'hui l'audience se poursuit avec l'instruction du dossier quant au fond. Il faut noter que ces procès sont organisés avec célérité dans le cadre de la double opération baptisée Zéro Kuluna Ndobo contre la criminalité urbaine afin de ramener la paix. Certains condamnés à mort ont déjà été transférés dans différentes prisons et devront être exécutés selon le ministre de la Justice. Amnesty International publie des hauts responsables de l'armée doivent faire l'objet d'enquêtes pour des possibles crimes contre l'humanité commis dans le cadre du massacre de Goma. Dans un nouveau rapport intitulé Opération Keba, l'ONG internationale analyse le massacre perpétré par l'armée congolaise selon Agoma et exige la fin de l'impunité dont jouissent encore les présumés auteurs, notamment certains officiers FRDC. Amnesty vulgarise aujourd'hui son rapport à travers une conférence de presse virtuelle. Les détails avec Jeff Ngoy.
L'ancien gouverneur de la province du Nord Kivu, général Constant Ndima et des autres hauts responsables de l'armée doivent être enquêtés pour des crimes présumés contre l'humanité lors de la répression d'une manifestation à Goma le 30 août 2023, déclare Amnesty International. Selon son rapport, au moins 56 personnes ont été tuées illégalement et plus de 80 ont été blessées. Le rapport démontre que les forces de sécurité se sont livrées à une folie meurtrière, ouvrant le feu sur des manifestants qui demandaient le départ de la MONUSCO. La plupart des manifestants étaient des membres du groupe politique et religieux nommé Foi naturelle messianique et judaïque pour les nations, dont les adeptes sont également appelés Wazalendo. Le rapport d'Amnesty identifie 3 officiers de l'armée, outre Constant Ndima, le colonel Mike Mikombe Kalamba, ex-commandant de la brigade interarmée de la garde républicaine, et le major Peter Kabwengandu. Le président Félix Tshisekedi doit suspendre immédiatement tous ses officiers. Le département des opérations de paix de l'ONU doit ouvrir une enquête indépendante sur les faits et en rendre les conclusions publiques, recommande l'ONG.
Actualité internationale.
Au Kenya, une manifestation contre les fémicides s'est rapidement heurtée à la police hier mardi. Des milliers de personnes, dont en majorité des femmes et jeunes filles, sont descendues dans les rues de Nairobi, la capitale, pour dénoncer les violences faites aux femmes dans le cadre de la clôture des 16 jours d'activisme, une campagne d'action internationale contre les violences basées sur le genre. Cette année, le Kenya a été secoué par plusieurs affaires choquantes, comme l'assassinat de la coureuse Rebecca Cheptegei ou encore la découverte des dizaines de corps de femmes démembrés dans une décharge de la banlieue de Nairobi. En octobre dernier, le directeur des affaires criminelles kenyanes a annoncé l'assassinat de 97 femmes en 90 jours. Pourtant, il assure que le sexe des victimes n'a rien à voir dans ces affaires. Et c'est ce déni qui fait enrager les manifestantes kenyanes qui estiment que les féminicides ne sont pas pris au sérieux au Kenya, sinon les femmes n'en seraient pas là.
L'invité.
L'association des professeurs de l'université de Kinshasa n'est pas en grève. Le professeur David Lubo le dit dans une interview exclusive à Radio Okapi. Pour lui, le gouvernement est en train de répondre favorablement aux desiderata des professeurs, alors que le RAPUICO, Rassemblement des professeurs des universités et instituts supérieurs du Congo, vient de déclencher une grève car selon cette association, le gouvernement n'a pas respecté le protocole d'accord de Bibwa conclu entre le banc syndical et les délégués du gouvernement. Mais pourquoi les professeurs ne parlent pas le même langage? Que doivent attendre les étudiants quand les professeurs eux-mêmes sont divisés? Suivez le professeur David Lubo, président des Lapukine, dans cet entretien avec Blaise Shindani Kambala.
Bonjour, professeur.
Bonjour, monsieur le journaliste Blaise.
Les enseignants et personnels membres du RAPUICO sont en grève. Est-ce que c'est le cas pour ceux de l'Apukine aussi?
Non, l'Apukine n'est pas en grève.
Oui, ça veut dire que vous ne vous retrouvez pas dans leurs revendications. Le RAPUICO demande le respect du barème, les véhicules pour ceux qui ne sont pas encore servis, le paiement selon les grades de certaines catégories de professeurs. Beaucoup de docteurs à thèse, par exemple, ne sont jamais payés depuis plusieurs années. Selon vous, le gouvernement a déjà satisfait à toutes ces revendications?
Non, dire qu'on a satisfait à toutes ces revendications, je serais menteur. Mais un pas significatif a été fait. Par exemple, à court terme, nous attendions la paye complémentaire. Elle a été faite de 3 mois. Toujours à court terme, nous attendions la commission de suivi. Eh bien, les membres de cette commission-là sont déjà payés et d'un moment à l'autre, on va la convoquer. Et c'est cette commission qui va épiloguer sur les nouveaux barèmes. Donc, le barème ne va pas se donner avant la commission qui est là pour suivre tous les accords de Bibwa. Par rapport aux véhicules, je crois que une délégation s'est séjournée outre-mer pour voir la faisabilité, la performance, la qualité, la tropicalisation. La délégation est déjà rentrée. Bientôt, on va formaliser par un contrat. Donc, là aussi, c'est un peu à moyen terme parce que les véhicules, on ne peut pas les commander aujourd'hui, l'avoir aujourd'hui. Donc, par rapport à la correction des grades, oui, ils peuvent avoir raison. Mais ce sont des dossiers individuels et il y en a qui sont corrigés. Mais il faut que l'individu vous dise que lui, on a corrigé. Mais très souvent, ce sont des dossiers individuels. La migration des nouveaux docteurs, pour ceux de l'UNIKIN, par exemple, nous avons pris rendez-vous avec les directeurs du cabinet du ministre du Budget. C'est un dossier très avancé. Mais les amis ne peuvent pas croire que lorsqu'on paye les de 2022. Mais chacun est payé au grade qu'il avait en 2022. Donc c'est maintenant qu'on cherche à les payer dans leur nouveau grade. Et d'ici janvier, cela sera fait. Voilà ce que je peux dire. Tous les restes là, je considère ça comme de logomachie.
Oui, mais professeur, est-ce que vous ne vous concertez pas entre vous? Parce que là, c'est vraiment pas normal que
oui,
les uns
bien.
Soient en grève, les autres continuent à travailler.
Nous nous concertons. Vous avez posé une question très intéressante. Nous nous concertons. Il y a eu des divergences, mais ce n'est pas qu'on ne se concerte pas. Nous avons tenu la première réunion ici, au siège même de la Pukine, où je me trouve maintenant, avec tous les bancs syndicales. On avait sonné l'alerte pour que le gouvernement accomplisse sa part. Et cette réunion s'était tenue le 22 octobre. Et le 4 novembre, nous avons eu l'état liquidatif de tout ce qu'on demandait comme paye complémentaire. Le 18 novembre, j'ai dit, nous avons eu un DTO. Et le 23 du même mois, on a eu l'OPI. Mais c'est comme ça que Rapukine a dit, tous ces documents qui montrent que le dossier est en train de suivre les coûts normaux à la chaîne de dépenses ne peuvent pas mener les gens rationnels à quitter la table de négociation. Encore, il faut dire que chaque fois qu'on négocie, même si on était en grève, on suspend. Donc, il y a eu concertation, mais il y a eu divergence d'approche. Mais sinon, ce sont les deux associations sœurs. Et vous-même, vous allez voir, bon, qui est sur terrain, ça c'est un autre problème. Vous n'avez qu'à balader votre micro à travers la ville de Kinshasa, vous allez voir quelle est l'institution qui est en grève, quel est l'établissement qui n'est pas en grève.
Voilà, maintenant que vous êtes divisé, professeur, comment est-ce que ça se passe dans les auditoires? Que doivent attendre les étudiants pour cette année académique qui vient de commencer?
Je ne veux pas parler des autres, mais à l'UNIKIN, il n'y a aucun auditoire qui est séché. Et je pense que c'est le cas pour plusieurs institutions, c'est comme ça que j'appelle la radio Okapi à faire la ronde.
Pour terminer, professeur, que répondez-vous à ceux qui vous accusent de devenir le porte-parole du gouvernement au lieu de défendre la cause de vos syndiqués?
Une question assez pertinente. La Pukine a marché en toge et a obtenu les premiers comptes de Bibwa. Où étaient ces gens-là? Ils étaient aussi manipulés par le gouvernement. La Pukine a obtenu les véhicules en 2013. Où étaient ces gens-là? Ils étaient aussi manipulés par le gouvernement. La Pukine a fait une grève qui est partie de septembre à novembre 2023 et a obtenu tout ce qu'on paye aujourd'hui. On ne fait pas le porte-parole du gouvernement, mais si quelqu'un peut vous dire le gouvernement a fait ça, 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 et que vous vérifiez, Si c'est ça les porte-parole, ça m'étonnerait. Qu'on me dise que j'ai inventé, ces gens qui crient là, est-ce qu'ils n'ont pas touché la commission, l'argent pour la commission, alors que les travaux n'ont pas encore commencé? C'est la question qu'il faut leur poser.
Professeur David Loubo, président de la Pouquine, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste.
Merci à vous tous aussi d'avoir suivi ce journal, lequel arrive à sa fin. Un journal présenté par Noëlla Luzitu Kabambi, mis en onde par Debs Vita et coordonné par Élisée Chikota. La supervision était assurée par Martin Sebujangwe. Restez à l'écoute des programmes de Radio Okapi.